Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez fascinant, une fiction, Le dernier rêve de Napoléon.
Bonjour. Oui, et ça commence fort, hein.
Ah oui, cette image. Une plaine toute blanche de neige, des officiers qui ne disent rien, une carte qu'ils n'arrivent pas à lire, et puis la douleur qui monte.
C'est ça. Ça nous plonge direct dans les pensées, les pensées imaginées, les derniers moments d'un Napoléon différent.
Et l'idée, c'est d'explorer un peu ça. Les regrets, le bilan politique qu'il aurait pu faire, ses doutes intimes.
Exactement. Qu'est-ce que cette fiction nous raconte sur lui? Tout en gardant en tête, bien sûr, la réalité. Son valet, Constant, qui le trouve mort le 5 mai 1821.
Avec ce fameux sourire un peu énigmatique.
Voilà, un sourire figé. Ce qui contraste d'ailleurs beaucoup avec le rêve décrit dans le texte.
Ah oui, c'est vrai. Le rêve est plutôt angoissant, non? Il perd tout, le lieu, la mémoire, et puis cette mort, presque calme si on pense au sourire.
Et le texte fait le lien avec une prophétie, en fait. Une histoire que Bourrienne, son secrétaire, aurait rappelée à sa mort.
Une prophétie? Laquelle?
Celle d'une bohémienne rencontrée à Brienne quand ils étaient jeunes. Elle lui aurait prédit des victoires, oui, mais une fin sur une île.
Et Bourrienne s'en souvenait encore?
Apparemment, il aurait été le seul témoin encore en vie à ce moment-là. Une vieille histoire de jeunesse qui ressurgit à la fin.
Cette idée de destin, ça donne une autre couleur à ses choix personnels, j'imagine. Par exemple, Désirée Clary.
Tout à fait, le texte en parle. La rencontre à Marseille, l'attirance, mais aussi ce conseil très pragmatique à son frère Joseph. Épouse Julie, la sœur, elle est plus posée.
Et lui, il épouse Désirée quand même.
Oui, mais après, dans cette fiction, il doute. Il la trouve un peu légère, frivole. Et puis, il y a l'ombre de Bernadotte.
Le futur roi de Suède.
Exactement. Témoin à leur mariage, parrain de leur fils, le Napoléon du texte a des soupçons sur leur relation.
Et Joséphine, elle apparaît aussi.
Oui, à travers un rêve prémonitoire qu'il aurait fait. Elle lui annoncerait sa propre mort. Le récit mentionne aussi leur rencontre, comment il l'a aidée après l'exécution de Beauharnais, son premier mari.
Mais pas de liaison tout de suite, d'après le texte.
Non, ça dément cette rumeur-là. Et puis, il y a un autre point intéressant, son rapport à la Corse et à sa mère.
Ah oui.
Un retour en Corse vers 1801-1802. Il se rend compte qu'il a oublié le Corse, sa langue maternelle. Et surtout, le texte creuse un doute sur sa naissance.
Lié aux rumeurs sur sa mère et le gouverneur Marbeuf.
Tout est renforcé par la prophétie, par ses propres talents militaires, comme si ça ne pouvait pas venir de sa famille, quoi. Sa mère l'aurait même prévenu, en Corse, tout n'est peut faire rien dans ces pays. Tu ne peux rien faire dans ce pays.
Passons à la politique, telle qu'elle est réimaginée ici. Thermidor en deux, c'est un moment clé.
Oui, juste après la Terreur, le texte dit qu'il refuse d'abord un commandement, puis il intervient. Il sauve les frères Robespierre à l'hôtel de ville.
Avec l'artillerie, le fameux feu contre les sections parisiennes.
C'est ça. Et ça le propulse. Il devient le général Thermidor. Mais bon, Robespierre, Maximilien, reste froid avec lui, d'après le texte, et il assiste à l'exécution des opposants le lendemain.
Et après ça, il y a un contraste fort, non? Entre ses succès en Italie et...
Et son poste de gouverneur en Corse, oui. D'un côté, Montenet, Rivoli, la gloire. De l'autre, la frustration en Corse. Il a l'impression d'avoir été écarté de Paris.
Par qui?
Par un trio. Robespierre, son propre frère Lucien, et Talleyrand. Ses idées pour moderniser l'île, bah ça ne prend pas. Les résistances locales sont trop fortes.
On sent une vraie amertume là.
Ah oui. Il critique durement les traités de paix. Pour lui, c'est Talleyrand et le parti anglais qui bradent tout. L'Italie, Anvers. Il accuse même Lucien.
Son frère?
Oui, d'avoir piqué ses idées. Les préfets, le code civil, que le texte appelle ironiquement le code Bonaparte, mais qu'il attribue à Lucien dans ce scénario.
C'est un Napoléon qui se sent trahi, en quelque sorte.
Complètement. Dépossédé. Il méprise ce régime de Robespierre qui devient consul à vie, tiens, et qui épouse une princesse anglaise. Pour lui, cette paix a tout éteint. L'élan révolutionnaire est mort.
Et malgré toute cette désillusion, il y a un truc qui revient en rêve. Une bataille.
Oui, toujours la même manœuvre. Attirer l'ennemi sur un plateau qu'on fait semblant d'abandonner, frapper au centre, envelopper les ailes.
C'est Austerlitz.
Exactement. Austerlitz le hante, avec cette douleur à l'estomac qui ne le quitte pas.
Jusqu'à la fin.
Où la douleur devient insupportable. Une rupture, suggère le texte. Et sur la carte de son rêve, devenue illisible, un seul nom qui s'impose.
Austerlitz.
Voilà. Le symbole de sa gloire, même dans cette fiction pleine d'amertume.
Au final, ce texte, c'est le portrait d'un homme complexe face à la mort. les regrets amoureux, la politique alternative, les doutes sur ses origines, tout ça mélangé aux souvenirs de bataille, bien loin de l'image d'Épinal.
C'est ça. Un homme hanté par ce qui aurait pu être différent. Le mariage avec Désiré, sa propre naissance, cette carrière sous un Robespierre qui aurait survécu.
Ce qui amène peut-être une dernière question.
Oui.
Dans quelle mesure est-ce que ces parts d'ombre, personnelles, qu'elles soient réelles ou fictives comme ici, peuvent changer notre regard sur une figure historique aussi, écrasante? Comment ça façonne ou interroge la légende publique?